Internet va-t-il tuer la presse ou la grandir ? Comme à l'arrivée de chaque nouveau média, on nous annonce la mort du journalisme papier. Mais il semble qu'Internet n'est pas seulement un nouveau moyen de distribution de l'information, mais surtout une autre façon de la consommer. Le lecteur ne se veut plus simple consommateur passif de l'info, il veut participer. Après les blogs et les sites de journalisme citoyen, les médias organisent de nouveaux espaces en leur sein, des espaces Pro-Am, où des journalistes professionnels collaborent avec des amateurs. Le Pro-Am est-il l'avenir de la presse en ligne? Quelles sont les initiatives les plus observées? Quelle y est la place du journaliste? État des lieux du mix de l'info. Que dirait-on d'une industrie dont 40% des consommateurs se défient? Où en serait la construction automobile si plus d'un tiers des conducteurs jugeaient leurs véhicules dangereux? Voici comment Laurent Geoffrin, le patron de Libération, commente le score obtenu depuis 10 ans par l'industrie de l'information. Alors, face à cette méfiance, les médias doivent s'adapter et recréer un lien avec leur public. C'est ce qu'a fait Tristan Mendes France dans un projet qu'il mène depuis maintenant plus d'un an sur blogtrotter.com. Son idée, partir au bout du monde avec un simple téléphone portable pour caméra et réaliser un documentaire, mais pas n'importe lequel, un documentaire participatif.
Ça veut dire qu'en fait, on s'ouvre aux suggestions, aux questions des internautes. Mais ça ne veut pas dire que les internautes ont une totale maîtrise du projet. On a une ligne éditoriale qu'on a fixée dès le début et on cherche à rester dans ce créneau-là. Mais dans ce créneau, on s'autorise une liberté qui est effectivement d'intégrer les commentaires, les interactions avec les internautes qui nous intéressent, qui peuvent enrichir le projet qu'on a lancé. Donc c'est pas quelque chose, comment dirais-je, entièrement piloté par les internautes, mais il y a une interaction qu'on gère avec eux. Et pour être aussi assez précis, on éditorialise en fait la relation qu'on a avec les internautes.
Et le dispositif tient ses promesses en fonction des remarques et des questions des internautes, les interviews et les images évoluent, et une petite communauté semble suivre avec plaisir les pérégrinations du vidéoblogueur. Mais si Tristan Mendes France a sauté les pieds dans le plat dans cette nouvelle approche du reportage, en France, peu d'initiatives de ce type ont vu le jour pour l'instant. Pour Gilles Bruno, spécialiste de l'Internet et fondateur de l'Observatoire des médias.com, il y a une certaine frilosité des médias français à expérimenter sur le web.
Exemple qui est flagrant, c'est l'exemple du payant. Aux États-Unis, ils n'ont pas arrêté, que ce soit CNN ou New York Times, de faire marche avant, marche arrière. On va dire, ah ben là, c'est payant. Appuie là, pendant un mois, au début, c'est gratuit pour vous. Et puis, 2 mois après, ça devient payant. Et puis, ils changent le modèle de paiement. Ils n'arrêtent pas de faire marche avant, marche arrière, un, pour tester, et ensuite, pour aussi faire par rapport à ce que font les autres. Si un tel met tout gratuit, bah l'autre, il a intérêt à mettre tout gratuit aussi, ou peut-être pas. Peut-être il a intérêt à faire payant, justement, mais en rajoutant du contenu premium. Donc tout ça est intéressant.
On l'aura compris, pour Gilles Bruno, les journaux ont intérêt à vite se lancer dans le grand bain. Mais en France, on en est encore aux interrogations.
Je ne sais pas comment on dit exactement.
Si. La grande question qu'on se pose, que tous les professionnels des médias se posent, c'est comment on fait participer les gens. Donc.
Concrètement, comment ça peut se passer ?
Je me demande même si chaque micromédia qui peut se créer n'aura pas sa propre logique interne qui ne sera même pas adaptable à d'autres.
Alors ça, c'est la bonne question, parce que si j'avais la réponse, on est beaucoup à chercher la réponse.
Qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, en fait, finalement ?
Et à ces questions, 3 journalistes ont tenté d'apporter des éléments de réponse. Laurent Mauriac, Pierre Aski et Pascal Richer ont créé Rue 89. Il y a 4 mois, ils étaient 6 dans la cuisine de Pierre Aski à bidouiller la version bêta du site. Aujourd'hui, Rue 89 est la valeur montante des sites Pro-Am en France. Leur point commun, ils étaient journalistes à Libération, mais surtout correspondants à l'étranger et blogueurs invétérés. Pascal Richer.
On a découvert à travers ces blogs d'abord le monde de l'Internet et une autre façon de faire du journalisme, une façon beaucoup plus humble, avec des échanges beaucoup plus nourris avec nos lecteurs, avec des remontées d'informations, enfin une façon tout à fait nouvelle qui nous a enthousiasmés. Par la suite, donc, on est revenu à Paris, on a réfléchi un peu à l'avenir de notre profession. Et voilà, donc nous est venue l'idée de créer un nouveau média qui allie à la fois le professionnalisme de journaliste avec la culture Internet. On a l'impression en tout cas de vivre une aventure. On a la conviction que notre profession est en train de changer. C'est-à-dire qu'on vit une véritable révolution, d'où le nom Rue 89 d'ailleurs. On vit une révolution de l'information. Alors, on ne sait pas si notre initiative sera la bonne. On est sûr qu'il y aura de nouveaux médias qui vont naître. Peut-être que ce sera une autre voie qui sera privilégiée, qui fonctionnera. En tout cas, on est sûr que les médias changent. Et c'est vrai qu'on a le sentiment de vivre une aventure, puisqu'on a l'impression d'inaugurer une nouvelle ère.
Et depuis le 6 mai dernier, sa mise en ligne, Rue 89 a fait parler de lui. Enfin, surtout depuis leur premier scoop. Souvenez-vous, c'est Rue 89 qui révélera qu'un article du JDD a été censuré. Un article sur l'abstention de Cécilia Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle. Internet apparaît encore une fois comme un espace de libre expression. Un espace où l'expression est d'ailleurs tellement libre que les commentaires s'agglutinent en bas des articles de Rue 89. On perd vite la patience de les lire, même si le site a inventer un système de vote qui masque les moins bien notés par la communauté. Mais pour l'instant, c'est surtout des considérations économiques qui se posent à l'existence des médias sur le net. Rue 89 est pour sa part quasi autofinancée. Les fondateurs misent sur la publicité et sur ce qu'ils appellent la love money, l'argent de l'amour. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Compter sur des amis donateurs, le business plan peut paraître risqué. Et pour Emmanuel Parodi, responsable audience et innovation du site deseco.fr, l'impasse économique est vite arrivée sur Internet.
Tout le monde a l'air de penser que la pub finance tout. Je pense que c'est une erreur. La publicité actuellement ne paye pas les contenus. Sauf que le niveau des tarifs publicitaires actuels n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est en France que la publicité sur les médias en ligne est 3, 4, 5, 10 fois inférieure en tarifs à celle qu'on a en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc en fait, il y a un vrai problème. Et en ce moment, toute la difficulté, c'est de reconstruire la chaîne de valeur et de justifier que quand on est sur un média, le tarif publicitaire n'a aucune raison d'être aligné sur celui d'un portail ou d'un site communautaire lambda, etc.
Un média est en effet sécurisant pour les annonceurs puisqu'une marque média véhicule des valeurs et connaît a priori son public. En revanche, en termes de génération de trafic, les médias traditionnels sont à la traîne par rapport aux sites communautaires. Pour conserver une audience, rien de tel donc que de fédérer une communauté.
Et maintenant, une page de publicité.
Alors l'idée, c'est évidemment de prendre le meilleur des deux mondes. Julien Jacob a quitté la présidence de CNET pour créer Obiwi, un site pro-âme sur des thématiques magazines. Le principe est le suivant. Plus ses contenus sont appréciés, plus l'utilisateur cumule les biwi et obtient de nouveaux accès sur le site. Un système au mérite pour émettre des standards de qualité.
Notre ambition, c'est de faire un meilleur magazine. La communauté, c'est une étape pour aller vers un but. C'est une étape extrêmement importante, mais c'est une étape pour faire un magazine qui soit plus cool, plus réactif, plus sympa, qui arrête de recopier des communiqués de presse. Nous, on est dans le magazine, donc c'est quand même dans la mode, dans la déco, dans le design, dans le tourisme, etc. Les agences de presse ont acquis une expertise et une efficacité tellement importante que dans les magazines féminins, par exemple, il y a, je crois, 40 marques de magazines féminins. C'est que tous ces magazines, ils parlent tous de la même chose au même moment, parce que tout ça est très organisé avec en amont des agences de presse qui organisent des événements, etc. Nous, l'intérêt de passer par une communauté, c'est que en fait, on va déceler des experts et dans la mode, par exemple, on ne va pas parler de Karl Lagerfeld, mais on va parler de Pierre-Henri Matou, qui est un cas réel, un jeune créateur bourré de talent, qui aujourd'hui n'est pas connu, ne passe pas dans Figaro Madame ou des choses comme ça. En participant à ce type de magazine, je vais créer et amener du contenu qu'on ne trouve pas ailleurs.
Mais certains vont encore plus loin. Le journal Libération, qui fut l'un des pionniers à se lancer sur le web, a certes pris du retard dans la mise en œuvre, mais pas dans le concept. Tout tient en un mot, jogger, soit l'association du journaliste et du blogueur. Et les joggers de Libé ne se contenteront pas d'échanges virtuels, ils pourront se rencontrer pour de vrai et discuter de leurs thèmes de prédilection. L'idée a été lancée il y a plus d'un an par Ludovic Blecher, aujourd'hui rédacteur en chef adjoint du site de Libé. Ludovic Blecher.
Il va de soi qu'il suffit pas de dire « Tiens, on crée une forme de journalisme collaboratif ». Il va aussi de soi qu'il faut associer tout un tas d'outils dits de social networking qui fassent que, en gros, l'approche est la suivante. On a une production collaborative de l'information. On a des gens qui sont à la fois des collaborateurs en termes de production de l'info et des lecteurs. Il faut que ces deux « populations », entre guillemets, et des zones où ils peuvent se valoriser, donc des espaces personnels sur le site, aussi bien les gens qui écrivent que les gens qui laissent des réactions. Et il faut aussi permettre à ces gens qui, autour de production collaborative de l'info, laissent des réactions, puissent se rencontrer, puissent matcher entre elles. Et donc leur mettre à disposition des outils à la fois de rencontres par affinité culturelle, de mailers, de choses comme ça, j'irai pas beaucoup plus loin. Et donc l'idée, c'est une approche en entonnoir qui aille de la production collaborative à la rencontre autour des thématiques de l'information.
C'est tout ce qu'on en saura pour l'instant. L'IB ne livre pas facilement ses secrets de fabrication. Lemonde.fr non plus d'ailleurs. Voici la réponse d'Alexis Delcambre, son rédacteur en chef, lorsqu'on l'interroge sur le projet de site collaboratif de son groupe.
On ne s'exprime pas sur ce projet actuellement.
Tant pis, on va tenter de lire entre les lignes en écoutant sa conception de la participation des internautes.
Le premier type de forme, c'est agir sur la façon dont le site est présenté.
C'est-à-dire pouvoir rendre plus visibles les éléments qui sont plébiscités par l'audience, c'est-à-dire faire apparaître à côté de la hiérarchie une hiérarchie complémentaire.
Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est d'ouvrir le débat et de permettre aux internautes de donner leur avis, d'exprimer des opinions.
Sur un média qui est vraiment fait pour ça, c'est fait pour qu'il y ait cette interactivité, donc c'est développé tout ce qui a trait aux espaces de forum.
Et la troisième famille de contenu, celle sur laquelle les sites vont le plus travailler dans les mois qui viennent, c'est celle de l'envoi de contenu par les internautes. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas que les journalistes professionnels qui savent faire des contenus journalistiques pertinents, diffusables. Il y a aussi des gens qui sont des amateurs et qui savent faire des contenus journalistiques pertinents et diffusables. C'est pas le cas le plus courant, mais ça existe. Ça existe, donc ça oblige les rédactions à décider de quelle place elle souhaite accorder à ses contenus, quelles règles de vérification, d'édition, etc. elle leur impose. Et l'équation que doivent résoudre les sites, c'est la façon dont ils harmonisent cela sans rien perdre en termes de rigueur, de qualité d'information, mais en gagnant en termes de variété de points de vue, de capacité à faire remonter des informations qui ont pu échapper à des journalistes professionnels.
Et rien n'aura filtré, mais depuis cette interview réalisée avant l'été, le poste, le nouveau site du Monde Interactif, a débarqué sur le net. Alors pas la peine d'y chercher la marque du quotidien ni de sa filiale de la toile sur la une. Il faut aller jusque dans les mentions légales pour découvrir son appartenance au monde. Le décor du poste est rose et le principe plutôt encourageant. On rédige son article pour son espace perso et la rédaction du poste peut le choisir et l'afficher à la une du site. Et pour accompagner ces internautes, le poste propose un encadrement pédagogique avec un coach virtuel qui donne des conseils pour bien écrire ses articles. Alors, est-on finalement en train de vivre une véritable révolution de l'information comme l'avance Rue 89, ou bien tout simplement en train de généraliser une relation finalement assez courante qui existe déjà à une échelle plus petite, celle des journalistes de la presse régionale et de leurs correspondants locaux? Le premier succès de la démarche pro-amateur s'est d'ailleurs révélé dans un quotidien régional, Le Dauphiné Libéré, une démarche mise en place par Benoît Raphaël avec le site quelcandidat.com. Lancé à l'occasion de la présidentielle, il s'est très vite imposé. À une semaine du premier tour, il comptabilisait 35 000 visites par jour avec des internautes de toute la France. Pour Benoît Raphaël, c'est clair, il faut replacer le journal au cœur de la vie quotidienne de ses lecteurs.
La crise que vivent les médias aujourd'hui est assez comparable à la crise que vivent les politiques. C'est un peu la crise des élites. Et les réponses sont presque les mêmes. On a beaucoup parlé de démocratie participative. On est un petit peu dans la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens n'ont pas du tout envie d'être élus à la place des élus. Ils le disent en général. Par contre, c'est pas pour ça qu'ils donnent un blanc-seing. Pendant la législature, ils veulent pouvoir aussi suggérer des idées, puis ils veulent aussi pouvoir contrôler. Ils veulent une transparence. Ben, les médias, c'est pareil. Donc on n'est pas du tout dans une remise en cause du poste de journaliste. Par contre, peut-être une remise en cause de sa façon de fonctionner. Mais ça, c'est pas au détriment du média. Au contraire, c'est certainement pas au détriment non plus de l'emploi dans le métier, puisque ça veut dire que dans tout ça, l'éditorial reste au cœur en fait du média. C'est juste la façon de fonctionner qui est différente et qui est beaucoup plus passionnante, parce que c'est hyper interactif. Ce que moi, j'ai vécu à la Murette est passionnant. On était d'ailleurs dans les deux, on était dans la démocratie participative et dans le média participatif, puisqu'on intervenait sur l'élection présidentielle. On a fait intervenir le maire, des habitants de droite, de gauche, etc. Brusquement, grâce à ce blog-là, où je me suis rendu compte qu'en fait, on avait replacé le média au centre de la vie quotidienne des gens, et de façon très très concrète. Et ça, c'est très fort. Bah ça, si c'est pas le rôle d'un média, si c'est pas le rôle d'un journaliste, quelque part, d'être au cœur de sa communauté, je sais pas où est le journalisme.
Il est clair que la presse s'interroge avidement sur son activité. Mais le journaliste va-t-il réellement pratiquer l'ouverture? L'enjeu est de cerner jusqu'où il est prêt à étendre son domaine professionnel. Les initiatives pro-amateurs s'attachent clairement à redéfinir la frontière entre le journaliste et son public. Mais au-delà des invitations à contribution, toutes ces expériences semblent mettre un point d'honneur à justifier et à valoriser l'expertise du journaliste. Un lien égalitaire entre le reporter et son public apparaît pour l'instant plus fantasmé que réel. En somme, vous voulez être acteur de l'info? Très bien. Mais nous gardons le dernier mot.